Ursule Mirouette, deuxième partie, deuxième fichier. Sur un signe qu'elle alla faire au gentilhomme, Savinien vint aussitôt. Elle voulait l'admirer, car il lui semblait changer en mieux. En effet, le service militaire imprime au geste, à la démarche, à l'air des hommes, une décision mêlée de gravité, je ne sais quelle rectitude, qui permet au plus superficiel observateur de reconnaître un militaire sous l'habit bourgeois. Rien ne démontre mieux que l'homme est fait pour commander. Ursule en aima mieux encore Savinien et ressentit une joie d'enfant à se promener dans le petit jardin en lui donnant le bras et lui faisant raconter la part qu'il avait eue, en sa qualité d'aspirant, à la prise d'Alger. Évidemment, Savinien avait pris Alger. Elle voyait, disait-elle, tout en rouge quand elle regardait la décoration de Savinien. Le docteur, qui de sa chambre les surveillait en s'habillant, vint les retrouver. Sans s'ouvrir entièrement au vicomte, il lui dit alors qu'au cas où madame de Portenduère consentirait à son mariage avec Ursule, la fortune de sa filleule rendait superflu le traitement des grades qu'il pouvait acquérir. « Hélas !» dit Savinien, « il faudra bien du temps pour vaincre l'opposition de ma mère. Avant mon départ, placée entre l'alternative de me voir rester près d'elle si elle consentait à mon mariage avec Ursule, ou de ne plus me revoir que de loin en loin et de me savoir exposée aux dangers de ma carrière, elle m'a laissé partir. » « Mais Savinien, nous serons ensemble !» dit Ursule en lui prenant la main et la lui secouant avec une espèce d'impatience. Se voir et ne plus se quitter, c'était pour elle tout l'amour. Elle ne voyait rien au-delà. Et son joli geste, la mutinerie de son accent, exprimèrent tant d'innocence que Savinien et le docteur en furent attendris. La démission fut envoyée. Et la fête d'Ursule reçut de la présence de son fiancé le plus bel éclat. Quelques mois après, vers le mois de mai, la vie intérieure reprit chez le docteur Minoret le calme d'autrefois, mais avec un habitué de plus. Les assiduités du jeune vicomte furent d'autant plus promptement interprétées comme celles d'un futur que, soit à la messe, soit à la promenade, ses manières et celles d'Ursule, quoique réservés, trahissaient l'entente de leur cœur. Dionys fit observer aux héritiers que le bonhomme ne demandait point ses intérêts à madame de Portenduère et que la vieille dame lui devait déjà 3 années. « Elle sera forcée de céder, de consentir à la mésalliance de son fils, » dit le notaire. « Si ce malheur arrive, il est probable qu'une grande partie de la fortune de votre oncle servira. » selon Basile, d'arguments irrésistibles. L'irritation des héritiers, en devinant que leur oncle leur préférait trop Ursule pour ne pas assurer son bonheur à leurs dépens, devint alors aussi sourde que profonde. Réunis tous les soirs chez Dionys depuis la révolution de juillet, ils y maudissaient les deux amants, et la soirée ne s'y terminait guère sans qu'ils eussent cherché, mais vainement, les moyens de contrecarrer le vieillard. Zélie, qui sans doute avait profité, comme le docteur, de la baisse des rentes pour placer avantageusement ses énormes capitaux, était la plus acharnée après l'orpheline et les Portenduère. Un soir, où Goupil, qui se gardait cependant de s'ennuyer dans ses soirées, était venu pour se tenir au courant des affaires de la ville qui se discutaient là, Zélie eut une recrudescence de haine. Elle avait vu le matin le docteur, Ursule et Savinien revenant en calèche d'une promenade aux environs, dans une intimité qui disait tout. « Je donnerais bien 30 000 francs pour que Dieu rappelât à lui notre oncle avant que le mariage de ce Portenduère et de la Mijaurée se fasse, » dit-elle. Goupil reconduisit monsieur et maman Minoret jusqu'au milieu de leur grande cour et leur dit en regardant autour de lui pour savoir s'ils étaient bien seuls. « Voulez-vous me donner les moyens d'acheter l'étude de Dionys et je ferai rompre le mariage de Monsieur Portenduère et d'Ursule.
« Comment ? »
demanda le colosse. « Me croyez-vous assez niais pour vous dire mon projet ? » répondit le maître clerc.
« Eh bien, mon garçon, brouille-les, et nous verrons, »
dit Zélie. « Je ne m'embarque point dans de pareils tracas sur un « nous verrons ». Le jeune homme est un crâne qui pourrait me tuer, et je dois être ferré à glace, être de sa force à l'épée et au pistolet. Établissez-moi, je vous tiendrai parole.
Empêche ce mariage, et je t'établirai, répondit le maître de poste.
Voici 9 mois que vous regardez à me prêter 15 malheureux 1000 francs pour acheter l'étude de Lecœur l'huissier, et vous voulez que je me fie à cette parole. Allez, vous perdrez la succession de votre oncle, et ce sera bien fait.
S'il ne s'agissait que de 15 000 francs et de l'étude de Lecœur, je ne dis pas, répondit Zélie. Mais vous cautionnez pour 50 000 écus.
Mais je paierai, dit Goupil en lançant à Zélie un regard fascinateur qui rencontra le regard impérieux de la maîtresse de poste. Ce fut comme du venin sur de l'acier.
Nous attendrons, dit Zélie.
« Ayez donc le génie du mal, » pensa Goupil. « Si jamais je les tiens, cela, » se dit-il en sortant, « je les presserai comme des citrons. » En cultivant la société du docteur, du juge de paix et du curé, Savinien leur prouva l'excellence de son caractère. L'amour de ce jeune homme pour Ursule, si dégagé de tout intérêt, si persistant, intéressa si vivement les 3 amis qu'ils ne séparaient plus ces 2 enfants dans leurs pensées. Bientôt la monotonie de cette vie patriarcale et la certitude que les amants avaient de leur avenir finirent par donner à leur affection une apparence de fraternité. Souvent le docteur laissait Ursule et Savinien seuls. Il avait bien jugé ce charmant jeune homme qui baisait la main d'Ursule en arrivant et ne la lui eût pas demandé seul avec elle, tant il était pénétré de respect pour l'innocence, pour la candeur de cet enfant, dont l'excessive sensibilité, souvent éprouvée, lui avait appris qu'une expression dure, un air froid, ou des alternatives de douceur et de brusquerie, pouvaient la tuer. Les grandes hardiesses des 2 amants se commettaient en présence des vieillards, le soir. 2 années, pleines de joie secrète, se passèrent ainsi, sans autre événement que les tentatives inutiles du jeune homme pour obtenir le consentement de sa mère à son mariage avec Ursule. Il parlait quelquefois des matinées entières. Sa mère l'écoutait sans répondre à ses raisons et à ses prières, autrement que par un silence de bretonne ou par des refus. À 19 ans, Ursule, élégante, excellente musicienne et bien élevée, n'avait plus rien à acquérir. Elle était parfaite. Aussi obtint-elle une renommée de beauté, de grâce et d'instruction, qui s'étendit au loin. Un jour, le docteur eut à refuser la marquise d'Aiglemont, qui pensait à Ursule pour son fils aîné. 6 mois plus tard, malgré le profond secret gardé par Ursule, par le docteur et par Madame d'Aiglemont, Savinien fut instruit par hasard de cette circonstance. Touché de tant de délicatesse, il argua de ce procédé pour vaincre l'obstination de sa mère, qui lui répondit « Si les d'Aiglemont veulent se mésallier, est-ce une raison pour nous ?» Au mois de décembre 1834, le pieux et bon vieillard déclina visiblement. En le voyant sortir de l'église, la figure jaune et grippée, les yeux pâles, toute la ville parla de la mort prochaine du bonhomme, alors âgé de 88 ans.
« Vous saurez ce qui en est, » disait-on aux héritiers.
En effet, le décès du vieillard avait l'attrait d'un problème. Mais le docteur ne se savait pas malade. Il avait des illusions, et ni la pauvre Ursule, ni Savinien, ni le juge de paix, ni le curé ne voulait par délicatesse l'éclairer sur sa position. Le médecin de Nemours, qui le venait voir tous les soirs, n'osait lui rien prescrire. Le vieux Minoret ne sentait aucune douleur, et il s'éteignait doucement. Chez lui, l'intelligence demeurait ferme, nette et puissante. Chez les vieillards ainsi constitués, l'âme domine le corps et lui donne la force de mourir debout. Le curé, pour ne pas avancer le terme fatal, dispensa son paroissien de venir entendre la messe à l'église et lui permit de lire les offices chez lui, car le docteur accomplissait minutieusement ses devoirs de religion. Plus il alla vers la tombe, plus il aima Dieu. Les clartés éternelles lui expliquaient de plus en plus les difficultés de tout genre. Au commencement de la nouvelle année, Ursule obtint de lui qu'il vendît ses chevaux, sa voiture et qu'il congédiât Cabirolle. Le juge de paix, dont les inquiétudes sur l'avenir d'Ursule étaient loin de se calmer par les demi-confidences du vieillard, entama la question délicate de l'héritage, en démontrant un soir à son vieil ami la nécessité d'émanciper Ursule. La pupille serait alors habile à recevoir un compte de tutelle et à posséder, ce qui permettrait de l'avantager. Malgré cette ouverture, le vieillard, qui cependant avait déjà consulté le juge de paix, ne lui confia point le secret de ses dispositions envers Ursule. Mais il adopta le parti de l'émancipation. Plus le juge de paix mettait d'insistance à vouloir connaître les moyens choisis par son vieil ami pour enrichir Ursule, plus le docteur devenait méfiant. Enfin, Minoret craignit positivement de confier au juge de paix ses 36 000 francs de rente au porteur. « Pourquoi, lui dit Bongrand, mettre contre vous le hasard ?»« Entre deux hasards, répondit le docteur. On évite le plus chanceux. » Bongrand mena l'affaire de l'émancipation assez rondement pour qu'elle fût terminée le jour où Mademoiselle Mirouette eut ses 20 ans. Cet anniversaire devait être la dernière fête du vieux docteur, qui, pris sans doute d'un pressentiment de sa fin prochaine, célébra somptueusement cette journée en donnant un petit bal auquel il invita les jeunes personnes et les jeunes gens des 4 familles, Dionis, Crémière, Minoret et Massin. Savinien, Bongrand, le curé, ses 2 vicaires, le médecin de Nemours, et mesdames Zélie, Minoret, Massin et Crémière, ainsi que Schmuck, furent les convives du grand dîner qui précéda le bal. « Je sens que je m'en vais, » dit le vieillard au notaire à la fin de la soirée. « Je vous prie donc de venir demain pour rédiger le compte de tutelle que je dois rendre à Ursule afin de ne pas en compliquer ma succession. Dieu merci, je n'ai pas fait tort d'une obole à mes héritiers et n'ai disposé que de mes revenus. Messieurs Crémière, Massin et Minoret, mon neveu, sont membres du conseil de famille institué pour Ursule. Ils assisteront à cette reddition de compte. » Ces paroles entendues par Massin et colportées dans le bal y répandirent la joie parmi les 3 familles, qui depuis 4 ans vivaient en de continuelles alternatives, se croyant tantôt riches, tantôt déshéritées. « C'est une langue qui s'éteint, » dit Madame Crémière. Quand, vers 2 heures du matin, il ne resta plus dans le salon que Savinien, Bongrand et le curé Chaperon, le vieux docteur dit en leur montrant Ursule, charmante en habit de bal, qui venait de dire adieu aux jeunes demoiselles Crémière et Massin, « C'est à vous, mes amis, que je la confie. Dans 2 jours, je ne serai plus là pour la protéger. Mettez-vous tous entre elle et le monde, jusqu'à ce qu'elle soit mariée. J'ai peur pour elle. » Ces paroles firent une impression pénible. Le comte, rendu 2 jours après en conseil de famille, établissait le docteur Minoret reliquataire de 10 600 francs, tant pour les arrérages de l'inscription de 1 400 francs de rente, dont l'acquisition était expliquée par l'emploi du legs du capitaine de Jordy, que pour un petit capital de 5 000 francs provenant des dons faits depuis 15 ans par le docteur à sa pupille, à leur jour de fête ou anniversaire de naissance respectif. Cette authentique reddition de compte avait été recommandée par le juge de paix, qui redoutait les effets de la mort du docteur Minoret, et qui, malheureusement, avait raison. Le lendemain de l'acceptation du compte de tutelle, qui rendait Ursule riche de 10 600 francs et de 1 400 francs de rente, le vieillard fut pris d'une faiblesse qui le contraignit à garder le lit. Malgré la discrétion qui enveloppait la maison du docteur, le bruit de sa mort se répandit en ville, où les héritiers coururent par les rues comme les grains d'un chapelet dont le fil est rompu. Massin, qui vint savoir les nouvelles, apprit d'Ursule elle-même que le bonhomme était au lit. Malheureusement, le médecin de Nemours avait déclaré que le moment où Minoret s'aliterait serait celui de sa mort. Dès lors, malgré le froid, les héritiers stationnèrent dans les rues, sur la place ou sur le pas de leurs portes, occupés à causer de cet événement attendu depuis si longtemps, et à épier le moment où le curé porterait au vieux docteur les sacrements dans l'appareil en usage dans les villes de province. Aussi, quand 2 jours après, l'abbé Chaperon, accompagné de son vicaire et des enfants de cœur, précédé du sacristain portant la croix, traversa la grande rue, les héritiers se joignirent-ils à lui pour occuper la maison, empêcher toute soustraction et jeter leurs mains avides sur les trésors présumés. Lorsque le docteur aperçut, à travers le clergé, ses héritiers agenouillés, qui, loin de prier, l'observaient par des regards aussi vifs que les lueurs des cierges, il ne put retenir un malicieux sourire. Le curé se retourna, les vit, et dit alors assez lentement les prières. Le maître de poste, le premier, quitta sa gênante posture. Sa femme le suivit. Massin craignit que Zélie et son mari ne missent la main sur quelque bagatelle, il les rejoignit au salon, et bientôt tous les héritiers s'y trouvèrent réunis. « Il est trop honnête homme pour voler l'extrême onction, » dit Crémière. « Ainsi nous voilà bien tranquilles. » « Oui, nous allons avoir chacun environ 20 000 francs de rente, » répondit madame Massin. « J'ai dans l'idée, » dit Zélie, « que depuis 3 ans il ne plaçait plus, il aimait à thésauriser. »
« Le trésor est sans doute dans sa cave, » disait Massin à Crémière. « Pourvu que nous trouvions quelque chose, » dit Minoret Levrault. « Mais après cette déclaration au bal, » s'écria madame Massin, « il n'y a plus de doute. »« En tout cas, » dit Crémière, « comment ferons-nous? Partagerons-nous? Liciterons-nous? Ou distribuerons-nous par lot? Car enfin, nous sommes tous majeurs. »
Une discussion, qui s'envenima promptement, s'éleva sur la manière de procéder. Au bout d'une demi-heure, un bruit de voix confus, sur lequel se détachait l'organe criard de Zélie, retentissait dans la cour et jusque dans la rue.
« Il doit être mort !»
dirent alors les curieux attroupés dans la rue. Ce tapage parvint aux oreilles du docteur, qui entendit ces mots.
« Mais la maison vaut 30 000 francs. Je la prends, moi, pour 30 000 francs. »
Crié, ou plutôt beuglé par Crémière.
« Eh bien, nous la paierons ce qu'elle vaudra, »
répondit aigrement Zélie.
« Monsieur le curé, » dit le vieillard à l'abbé Chaperon, qui demeura auprès de son ami après l'avoir administré, « faites que je demeure en paix. Mes héritiers, comme ceux du cardinal Ximénès, sont capables de piller ma maison avant ma mort, et je n'ai pas de singe pour me rétablir. » Allez leur signifier que je ne veux personne chez moi. »
Le curé, le médecin, descendirent, répétèrent l'ordre du moribond, et dans un accès d'indignation, y ajoutèrent de vives paroles pleines de blâme. « Madame Bougival, dit le médecin, fermez la grille et ne laisser entrer personne. Il semble qu'on ne puisse pas mourir tranquille. Vous préparerez un cataplasme de farine de moutarde afin d'appliquer des sinapismes aux pieds de monsieur.
Votre oncle n'est pas mort, et il peut vivre encore longtemps,
disait l'abbé Chaperon en congédiant les héritiers venus avec leurs enfants. Il réclame le plus profond silence et ne veut que sa pupille auprès de lui. Quelle différence entre la conduite de cette jeune fille et la vôtre!
Vieux cafard! S'écria Crémière.
Je vais faire sentinelle. Il est bien possible qu'il se machine quelque chose contre nos intérêts. Le maître de poste avait déjà disparu dans le jardin avec l'intention de veiller son oncle en compagnie d'Ursule et de se faire admettre dans la maison comme un aide. Il revint à pas de loup, sans que ses bottes fissent le moindre bruit, car il y avait des tapis dans le corridor et sur les marches de l'escalier. Il put alors arriver jusqu'à la porte de la chambre de son oncle sans être entendu. Le curé, le médecin étaient partis, la Bougival préparait le sinapisme.
« Sommes-nous bien seuls ? » dit le vieillard à sa pupille.
Ursule se haussa sur la pointe des pieds pour voir dans la cour.
« Oui, » dit-elle, « monsieur le curé a tiré la grille lui-même en s'en allant. » « Mon enfant aimé, » dit le mourant, « mes heures, mes minutes même sont comptées. Je n'ai pas été médecin pour rien. Le sinapisme du docteur ne me fera pas aller jusqu'à ce soir. Ne pleure pas, Ursule, » dit-il en se voyant interrompu par les pleurs de sa filleule. « Mais écoute-moi bien. Il s'agit d'épouser Savinien. Aussitôt que la Bougival sera montée avec le sinapisme, descends au pavillon chinois. En voici la clé. Soulève le marbre du buffet de boules. Et dessous, tu trouveras une lettre cachetée à ton adresse. Prends-la. Reviens me la montrer. » car je ne mourrai tranquille qu'en te la voyant entre les mains. Quand je serai mort, tu ne le diras pas sur le champ. Tu feras venir monsieur de Portenduère. Vous lirez la lettre ensemble. Et tu me jures, en son nom et au tien, d'exécuter mes dernières volontés. Quand il m'aura obéi, vous annoncerez ma mort, et la comédie des héritiers commencera. Dieu veuille que ces monstres ne te maltraitent pas. Oui, mon parrain.
Le maître de poste n'écouta point le reste de la scène. Il détala sur la pointe des pieds en se souvenant que la serrure du cabinet se trouvait du côté de la bibliothèque. Il avait assisté dans le temps au débat de l'architecte et du serrurier qui prétendaient que, si l'on s'introduisait dans la maison par la fenêtre donnant sur la rivière, il fallait par prudence mettre la serrure du côté de la bibliothèque. Le cabinet devant être une pièce de plaisance pour l'été. Ébloui par l'intérêt et les oreilles pleines de sang, Minoret dévissa la serrure au moyen d'un couteau, avec la prestesse des voleurs. Il entra dans le cabinet, y prit le paquet de papier, sans s'amuser à le décacheter, revissa la serrure, remit les choses en état, et alla s'asseoir dans la salle à manger, en attendant que la Bougival montât le sinapisme pour quitter la maison. Il opéra sa fuite avec d'autant plus de facilité que la pauvre Ursule trouva plus urgent de voir appliquer le sinapisme que d'obéir aux recommandations de son parrain.
« La lettre ! La lettre ! »
cria d'une voix mourante le vieillard. « Obéis-moi, voici la clé, je veux te voir la lettre à la main. » Ces paroles furent jetées avec des regards si égarés que la Bougival dit à Ursule «
« Mais faites donc ce que veut votre parrain, ou vous allez causer sa mort. »
Elle le baisa sur le front, prit la clé et descendit. Mais, bientôt rappelée par les cris perçants de la Bougival, elle accourut. Le vieillard l'embrassa par un regard, lui vit les mains vides, se dressa sur son séant, voulut parler, et mourut en faisant un horrible dernier soupir, les yeux hagards de terreur. La pauvre petite, qui voyait la mort pour la première fois, tomba sur ses genoux et fondit en larmes. La Bougival ferma les yeux du vieillard et le disposa dans son lit. Quand, selon son expression, elle eut paré le mort, la vieille nourrice courut prévenir M. Savinien. Mais les héritiers, qui se tenaient au bout de la rue entourés de curieux, et absolument comme des corbeaux qui attendent qu'un cheval soit enterré pour venir gratter la terre et la fouiller de leurs pattes et du bec, accoururent avec la célérité de ces oiseaux de proie. Pendant ces événements, le maître de poste était allé chez lui pour savoir ce que contenait le mystérieux paquet. Voici ce qu'il trouva. « À ma chère Ursule Mirouette, fille de mon beau-frère naturel, Joseph Mirouette, et de Dina Krollmann. Nemours, 15 janvier 1830. Mon petit ange, mon affection paternelle, que tu as si bien justifié, a eu pour principe non seulement le serment que j'ai fait à ton pauvre père de le remplacer, mais encore ta ressemblance avec Ursule Mirouette, ma femme, de qui tu m'as sans cesse rappelé les grâces, l'esprit, la candeur et le charme. Ta qualité de fille du fils naturel de mon beau-père pourrait rendre des dispositions testamentaires faites en ta faveur sujettes à contestation.
« Le vieux gueux !» cria le maître de poste.
« Ton adoption aurait été l'objet d'un procès. Enfin, j'ai toujours reculé devant l'idée de t'épouser pour te transmettre ma fortune. Car j'aurais pu vivre longtemps et déranger l'avenir de ton bonheur, qui n'est retardé que par la vie de Madame de Portenduère. Ces difficultés mûrement pesées, et voulant te laisser la fortune nécessaire à une belle existence...
« Scélérat, il a pensé à tout !»«
Sans nuire en rien à mes héritiers. »
« Le jésuite, comme s'il ne nous devait pas toute sa fortune !»
« Je t'ai destiné le fruit des économies que j'ai faites pendant 18 années et que j'ai constamment fait valoir, par les soins de mon notaire, en vue de te rendre aussi heureuse qu'on peut l'être par la richesse. Sans argent, ton éducation et tes idées élevées feraient ton bonheur. D'ailleurs, tu dois une belle dot au charmant jeune homme qui t'aime. Tu trouveras donc dans le milieu du 3e volume des Pandectes, in folio, relié en maroquin rouge, et qui est le dernier volume du 1er rang, au-dessus de la tablette de la bibliothèque, dans le dernier corps, du côté du salon, 3 inscriptions de rente en 3% au porteur, de chacune 12 000 francs.
« Quelle profondeur de scélératesse ! » s'écria le maître de poste. « Ah ! Dieu ne permettra pas que je sois ainsi frustré !»
« Prends-les aussitôt, ainsi que le peu d'arriérage économisé au moment de ma mort, et qui seront dans le volume précédent. Songe, mon enfant adoré, que tu dois obéir aveuglément à une pensée qui a fait le bonheur de toute ma vie, et qui m'obligerait à demander le secours de Dieu si tu me désobéissais. Mais, en prévision d'un scrupule de ta chère conscience, que je sais ingénieuse à se tourmenter, tu trouveras ci-joint un testament en bonne forme de ces inscriptions au profit de M. Savinien de Portenduère. Ainsi, soit que tu les possèdes toi-même, soit qu'elles te viennent de celui que tu aimes, elles seront ta légitime propriété. Ton parrain, Denis Minoret. À cette lettre était jointe, sur un carré de papier timbré, la pièce suivante. Ceci est mon testament. Moi, Denis Minoret, docteur en médecine, domicilié à Nemours, saint d'esprit et de corps, ainsi que la date de ce testament le démontre, lègue mon âme à Dieu, le priant de me pardonner mes longues erreurs en faveur de mon sincère repentir. Puis, ayant reconnu en monsieur le vicomte Savinien de Portenduère une véritable affection pour moi, je lui lègue 36 000 francs de rente perpétuelle, 3%, à prendre dans ma succession, par préférence à tous mes héritiers. Fait et écrit en entier de ma main, à Nemours, le 11 janvier 1831. Denis Minoret. Sans hésiter, le maître de poste, qui, pour être bien seul, s'était enfermé dans la chambre de sa femme, y chercha le briquet phosphorique et reçut deux avis du ciel par l'extinction de deux allumettes qui successivement ne voulurent pas s'allumer. La troisième prit feu. Il brûla dans la cheminée et la lettre et le testament. Par une précaution superflue, il enterra les vestiges du papier et de la cire dans les cendres. Puis, affriolé par l'idée de posséder 36 000 francs de rente à l'insu de sa femme, il revint au pas de course chez son oncle, aiguillonné par la seule idée, idée simple et nette, qui pouvait traverser sa lourde tête. En voyant la maison de son oncle envahie par les trois familles enfin maîtresses de la place, il trembla de ne pouvoir accomplir un projet sur lequel il ne se donnait pas le temps de réfléchir en ne pensant qu'aux obstacles. « Que faites-vous donc là ? » dit-il à Massin et à Crémière. « Croyez-vous que nous allons laisser la maison et les valeurs au pillage ? Nous sommes trois héritiers. Nous ne pouvons pas camper là. Vous, Crémière, courez donc chez Dionis et dites-lui de venir constater le décès. Je ne puis pas, quoique adjoint, dresser l'acte mortuaire de mon oncle. Vous, Massin, allez prier le père Bongrand d'apposer les scellés. Et vous, tenez donc compagnie à Ursule, mesdames, dit-il à sa femme, à mesdames Massin et Crémière. Ainsi, rien ne se perdra. Surtout fermez la grille, que personne ne sorte. » Les femmes, qui sentirent la justesse de cette observation, coururent dans la chambre d'Ursule et trouvèrent cette noble créature, déjà si cruellement soupçonnée, agenouillée et priant Dieu, le visage couvert de larmes. Minoret, devinant que les trois héritières ne resteraient pas longtemps avec Ursule et craignant la défiance de ses co-héritiers, alla dans la bibliothèque, y vit le volume, l'ouvrit, prit les trois inscriptions, et trouva dans l'autre une trentaine de billets de banque. En dépit de sa nature brutale, le colosse crut entendre un carillon à chacune de ses oreilles. Le sang lui sifflait aux tempes en accomplissant ce vol. Malgré la rigueur de la saison, il eut sa chemise mouillée dans le dos. Enfin, ses jambes flageolaient au point qu'il tomba sur un fauteuil du salon, comme s'il eût reçu quelques coups de massue à la tête. « Ah, comme une succession délie les langues au grand Minoret !» avait dit Massin en courant par la ville. « L'avez-vous entendu ? » disait-il à Crémière. « Allez ici, allez là, comme il connaît la manœuvre !» « Oui, pour une grosse bête !» Il avait un certain air. « Tenez !» dit Massin alarmé. « Sa femme y est. Ils sont trop de deux. Faites les commissions. J'y retourne. » Au moment où le maître de poste s'asseyait, il aperçut donc à la grille la figure allumée du greffier qui revenait avec une célérité de fouine à la maison mortuaire. « Eh bien, qu'y a-t-il ? » demanda le maître de poste en allant ouvrir à son co-héritier. « Rien, je reviens pour les sceller, » lui répondit Massin en lui lançant un regard de chat sauvage. « Je voudrais qu'ils fussent déjà posés, et nous pourrions tous revenir chacun chez nous, » répondit Minoret. « Ma foi, nous mettrons un gardien des scellés, » répondit le greffier. « La Bougival est capable de tout dans l'intérêt de la Mijaurée. Nous y placerons Goupil. »« Lui ! » dit le maître de poste. « Il prendrait la grenouille !» et nous n'y verrions que du feu. « Voyons, » reprit Massin, « ce soir on veillera le mort, et nous aurons fini d'apposer les scellés dans une heure. Ainsi nos femmes les garderont elles-mêmes. Nous aurons demain à midi l'enterrement. On ne peut procéder à l'inventaire que dans 8 jours. « Mais, » dit le colosse en souriant, « faisons déguerpir cette Mijaurée, et nous commettrons le tambour de la mairie à la garde des scellés et de la maison. »« Bien !» s'écria le greffier. « Chargez-vous de cette expédition. Vous êtes le chef des Minorets. »« Mesdames, messieurs, » dit Minoret, « veuillez rester toutes au salon. Il ne s'agit pas d'aller dîner, mais de procéder à l'apposition des scellés pour la conservation de tous les intérêts. puis il prit sa femme à part pour lui communiquer les idées de Massin relativement à Ursule. Aussitôt les femmes, dont le cœur était rempli de vengeance et qui souhaitaient prendre une revanche sur la Mijaurée, accueillirent avec enthousiasme le projet de la chasser. Bongrand parut et fut indigné de la proposition que Zélie et Madame Massin lui firent, en qualité d'amis du défunt, de prier Ursule de quitter la maison.
« Allez vous-même la chasser de chez son père, de chez son parrain, de chez son oncle, de chez son bienfaiteur, de chez son tuteur. Allez-y, vous qui ne devez cette succession qu'à la noblesse de son âme. Prenez-la par les épaules et jetez-la dans la rue, à la face de toute la ville. Vous la croyez capable de vous voler? Eh bien, constituez un gardien des scellés. Vous serez dans votre droit. Sachez d'abord que je n'apposerai pas les scellés sur sa chambre. Elle y est chez elle. Tout ce qui s'y trouve est sa propriété. Je vais l'instruire de ses droits et lui dire d'y rassembler tout ce qui lui appartient.
Oh, en votre présence !» ajouta-t-il en entendant un grognement d'héritier.
« Hein ?»
dit le percepteur au maître de poste et aux femmes stupéfaites de la colérique allocution de Bongrand.
« En voilà un de magistrats !»
s'écria le maître de poste. Assis sur une petite causeuse, à demi évanouie, la tête renversée, ses nattes défaites, Ursule laissait échapper un sanglot de temps en temps. Ses yeux étaient troubles, elle avait les paupières enflées. Enfin, elle se trouvait en proie à une prostration morale et physique qui eût attendri les êtres les plus féroces, excepté les héritiers.
« Ah, monsieur Bongrand, après ma fête, la mort et le deuil, »
dit-elle avec cette poésie naturelle aux belles âmes. « Vous savez, vous, ce qu'il était. En 20 ans, pas une parole d'impatience avec moi. J'ai cru qu'il vivrait 100 ans.
« Il a été ma mère, » cria-t-elle, « et une bonne mère. »
Ce peu d'idées exprimées attira 2 torrents de larmes entrecoupées de sanglots, puis elle retomba comme une masse.
« Mon enfant, » reprit le juge de paix en entendant les héritiers dans l'escalier, « vous avez toute la vie pour le pleurer, et vous n'avez qu'un instant pour vos affaires. Réunissez dans votre chambre tout ce qui, dans la maison, est à vous. Les héritiers me forcent à mettre les scellés. »«
Ah ! Les héritiers peuvent bien tout prendre !» s'écria Ursule en se dressant dans un accès d'indignation sauvage.
« J'ai là tout ce qu'il y a de précieux !»
dit-elle en se frappant la poitrine.
« Et quoi ?»
demanda le maître de poste, qui, de même que Massin, montra sa terrible face.
« Le souvenir de ses vertus, de sa vie, de toutes ses paroles, une image de son âme céleste, »
dit-elle, les yeux et le visage étincelants, en levant une main par un superbe mouvement.
« Et vous y avez aussi une clé !»
s'écria Massin en se coulant comme un chat et allant saisir une clé qui tomba, chassée des plis du corsage par le mouvement d'Ursule.
« C'est, » dit-elle en rougissant, « la clé de son cabinet. Il m'y envoyait au moment d'expirer. »
Après avoir échangé d'affreux sourires, les deux héritiers regardèrent le juge de paix en exprimant un flétrissant soupçon. Ursule, qui surprit et devina ce regard calculé chez le maître de poste, involontaire chez Massin, se dressa sur ses pieds, devint pâle comme si son sang la quittait. Ses yeux lancèrent cette foudre qui peut-être ne jaillit qu'aux dépens de la vie, et, d'une voix étranglée,
« Ah, monsieur Bongrand, » dit-elle, « tout ce qui est dans cette chambre me vient des bontés de mon parrain. On peut tout me prendre. Je n'ai sur moi que mes vêtements. Je vais sortir et je n'y rentrerai plus. »
Elle alla dans la chambre de son tuteur, d'où nulle supplication ne put l'arracher, car les héritiers eurent un peu honte de leur conduite. Elle dit à la Bougival de lui retenir 2 chambres à l'auberge de la Vieille Poste, jusqu'à ce qu'elle eût trouvé quelque logement en ville où elles pussent vivre toutes les deux. Elle rentra chez elle pour y chercher son livre de prière et resta presque toute la nuit avec le curé, le vicaire et Savinien, à prier et à pleurer. Le gentilhomme vint après le coucher de sa mère et s'agenouilla sans mot dire auprès d'Ursule, qui lui jeta le plus triste sourire en le remerciant d'être fidèlement venu prendre une part de ses douleurs. « Mon enfant, dit monsieur Bongrand en apportant à Ursule un paquet volumineux, une des héritières de votre oncle a pris dans votre commode tout ce qui vous était nécessaire, car on ne lèvera les scellés que dans quelques jours, et vous recouvrerez alors ce qui vous appartient. Dans votre intérêt, j'ai mis les scellés à votre chambre. » « Merci, monsieur, répondit-elle en allant à lui et lui serrant la main. « Voyez-le donc encore une fois. Ne dirait-on pas qu'il dort ?» Le vieillard offrait en ce moment cette fleur de beauté passagère qui se pose sur la figure des morts expirés sans douleur. Il semblait rayonner. « Ne vous a-t-il rien remis en secret avant de mourir ?» dit le juge de paix à l'oreille d'Ursule. « Rien, dit-elle. Il m'a seulement parlé d'une lettre. « Bon, elle se trouvera, reprit Bongrand. Il est alors très heureux pour vous qu'ils aient voulu les sceller. » Au petit jour, Ursule fit ses adieux à cette maison, où son heureuse enfance s'était écoulée, surtout à cette modeste chambre où son amour avait commencé, et qui lui était si chère qu'au milieu de son noir chagrin, elle eut des larmes de regret pour cette paisible et douce demeure. Après avoir une dernière fois contemplé tour à tour ses fenêtres et Savinien, elle sortit pour se rendre à l'auberge, accompagnée de la Bougival, qui portait son paquet, du juge de paix, qui lui donnait le bras, et de Savinien, son doux protecteur. Ainsi, malgré les plus sages précautions, le défiant jurisconsulte se trouvait avoir raison. Il allait voir Ursule sans fortune, et aux prises avec les héritiers. Le lendemain soir, toute la ville était aux obsèques du docteur Minoret. Quand on y apprit la conduite des héritiers envers sa fille d'adoption, l'immense majorité la trouva naturelle et nécessaire. Il s'agissait d'une succession. Le bonhomme était cachotier. Ursule pouvait se croire des droits. Les héritiers défendaient leurs biens. Et d'ailleurs, elle les avait assez humiliés pendant la vie de leur oncle, qui les recevait comme des chiens dans un jeu de quilles. Désiré Minoret, qui ne faisait pas merveille dans sa place, disaient les envieux du maître de poste, arriva pour le service. Hors d'état d'assister au convoi, Ursule était au lit, en proie à une fièvre nerveuse, autant causée par l'insulte que les héritiers lui avaient faite que par sa profonde affliction. « Voyez donc cette hypocrite qui pleure !» disaient quelques-uns des héritiers en se montrant Savinien, vivement affligé de la mort du docteur. « La question est de savoir s'il a raison de pleurer, » répondit Goupil. « Ne vous pressez pas de rire, les scellés ne sont pas levés. »« Bah !» dit Minoret qui savait à quoi s'en tenir. « Vous nous avez toujours effrayés pour rien. » Au moment où le convoi partit de l'église pour se rendre au cimetière, Goupil eut un amer déboire. Il voulut prendre le bras de Désiré, mais en le lui refusant, le substitut renia son camarade en présence de tout Nemours. « Ne nous fâchons pas, je ne pourrai plus me venger !» pensa le maître clerc, dont le cœur sec se gonfla comme une éponge dans sa poitrine. Avant de lever les scellés et de procéder à l'inventaire, il fallut le temps au procureur du roi, tuteur légal des orphelins, de commettre Bongrand pour le représenter. La succession Minoret, de laquelle on parla pendant 10 jours, s'ouvrit alors et fut constatée avec la rigueur des formalités judiciaires. Dionys y trouvait son compte. Goupil et Métacé à faire le mal. Et comme l'affaire était bonne, les vacations se multiplièrent. On déjeunait presque toujours après la première vacation. Notaires, clercs, héritiers et témoins buvait les vins les plus précieux de la cave. En province, et surtout dans les petites villes où chacun possède sa maison, il est assez difficile de se loger. Aussi, quand on y achète un établissement quelconque, la maison fait-elle presque toujours partie de la vente. Le juge de paix, à qui le procureur du roi recommanda les intérêts de l'orpheline, ne vit autre moyen pour la retirer de l'auberge que de lui faire acquérir dans la grande rue, à l'encoignure du pont sur le Loing, une petite maison à porte bâtarde ouvrant sur un corridor et n'ayant au rez-de-chaussée qu'une salle à deux croisées sur la rue, et derrière laquelle il y avait une cuisine dont la porte-fenêtre donnait sur une cour intérieure d'environ 30 pieds carrés. Un petit escalier éclairé sur la rivière par des jours de souffrance menait au premier étage, composé de 3 chambres, et au-dessus duquel se trouvaient 2 mansardes. Le juge de paix prit à la Bougival 2 000 francs d'économie pour payer la première portion du prix de cette maison, qui valait 6 000 francs, et il obtint des termes pour le surplus. Pour pouvoir placer les livres qu'Ursule voulait racheter, Bongrand fit détruire la cloison intérieure de 2 pièces au premier étage, après avoir observé que la profondeur de la maison répondait à la longueur du corps de bibliothèque. Savinien et le juge de paix pressèrent si bien les ouvriers qui nettoyaient cette maisonnette, la peignaient et y mettaient tout à neuf, que vers la fin du mois de mars, l'orpheline put quitter son auberge et retrouva dans cette laide maison une chambre pareille à celle d'où les héritiers l'avaient chassée, car elle fut meublée de ses meubles, repris par le juge de paix à la levée des scellés. La Bougival, logée au-dessus, pouvait descendre à l'appel d'une sonnette placée au chevet du lit de sa jeune maîtresse. La pièce destinée à la bibliothèque, la salle du rez-de-chaussée et la cuisine, encore vide, mise en couleur seulement, tendue de papier frais et repeinte, attendait les acquisitions que la filleule ferait à la vente du mobilier de son parrain. Quoique le caractère d'Ursule leur fût connu, le juge de paix et le curé craignirent pour elle ce passage si subit à une vie dénuée des recherches et du luxe auquel le défunt docteur avait voulu l'habituer. Quant à Savinien, il en pleurait. Aussi avait-il donné secrètement aux ouvriers et aux tapissiers plus d'une soulte afin qu'Ursule ne trouvât aucune différence, à l'intérieur du moins, entre l'ancienne et la nouvelle chambre. Mais la jeune fille, qui puisait tout son bonheur dans les yeux de Savinien, montra la plus douce résignation. En cette circonstance, elle charma ses 2 amis et leur prouva pour la 1000e fois que les peines du cœur pouvaient seules la faire souffrir. La douleur que lui causait la perte de son parrain était trop profonde pour qu'elle sentît l'amertume de ce changement de fortune, qui cependant apportait de nouveaux obstacles à son mariage. La tristesse de Savinien, en la voyant si réduite, lui fit tant de mal qu'elle fut obligée de lui dire à l'oreille, en sortant de la messe, le matin de son entrée dans sa nouvelle maison. « L'amour ne va pas sans la patience. Nous attendrons. » Dès que l'intitulé de l'inventaire fut dressé, Massin, conseillé par Goupil, qui se tourna vers lui par haine secrète contre Minoret, en espérant mieux du calcul de cet usurier que de la prudence de Zélie, fit mettre en demeure Madame et Monsieur de Portenduère, dont le remboursement était échu. La vieille dame fut étourdie par une sommation de payer 129 517 francs 55 centimes aux héritiers dans les 24 heures et les intérêts à compter du jour de la demande, à peine de saisie immobilière. Emprunter pour payer était une chose impossible. Savinien alla consulter un avoué à Fontainebleau. « Vous avez affaire à de mauvaises gens qui ne transigeront point. Ils veulent poursuivre à outrance pour avoir la ferme des Bordières, » lui dit l'avoué. « Le mieux serait de laisser convertir la vente en vente volontaire afin d'éviter les frais. » cette triste nouvelle abattit la vieille bretonne, à qui son fils fit observer doucement que si elle avait voulu consentir à son mariage du vivant de Minoret, le docteur aurait donné ses biens au mari d'Ursule. Aujourd'hui, leur maison serait dans l'opulence au lieu d'être dans la misère. Quoique dite sans reproche, cette argumentation tua la vieille dame, tout autant que l'idée d'une prochaine et violente dépossession. En apprenant ce désastre, Ursule, à peine remise de la fièvre et du coup que les héritiers lui avaient porté, resta stupide d'accablement. Aimer et se trouver impuissante à secourir celui qu'on aime est une des plus effroyables souffrances qui puissent ravager l'âme des femmes nobles et délicates. Je voulais acheter la maison de mon oncle. J'achèterai celle de votre mère, lui dit-elle. Est-ce possible ? Dit Savinien. Vous êtes mineur et ne pouvez vendre votre inscription de rente sans des formalités auxquelles le procureur du roi ne se prêterait point. Nous n'essaierons d'ailleurs pas de résister. Toute la ville voit avec plaisir la déconfiture d'une maison noble. Ces bourgeois sont comme des chiens à la curée. Il me reste heureusement 10 000 francs avec lesquels je pourrai faire vivre ma mère jusqu'à la fin de ces déplorables affaires. Enfin, l'inventaire de votre parrain n'est pas encore terminé. Monsieur Bongrand espère encore trouver quelque chose pour vous. Il est aussi étonné que moi de vous savoir sans aucune fortune. Le docteur s'est si souvent expliqué, soit avec lui, soit avec moi, sur le bel avenir qu'il vous avait arrangé, que nous ne comprenons rien à ce dénouement. « Bah ! » dit-elle. « Pourvu que je puisse acheter la bibliothèque et les meubles de mon parrain, pour éviter qu'ils ne se dispersent ou n'aillent en des mains étrangères, je suis contente de mon sort. » « Mais qui sait le prix que mettront ces infâmes héritiers à ce que vous voudrez avoir ?» On ne parlait, de Montargis à Fontainebleau, que des héritiers minorés et du million qu'ils cherchaient. Mais les plus minutieuses recherches, faites dans la maison depuis la levée des scellés, n'amenaient aucune découverte. Les 129 000 francs de la créance portenduère, les 15 000 francs de rente dans le 3%, alors à 76, et qui donnait un capital de 380 000 francs, la maison, estimée 40 000 francs, et son riche mobilier, produisait un total d'environ 600 000 francs, qui semblait à tout le monde une assez jolie fiche de consolation. Minoret eut alors quelques inquiétudes mordantes. La Bougival et Savinien, qui persistait à croire, aussi bien que le juge de paix, à l'existence de quelques testaments, arrivait à la fin de chaque vacation et venait demander à Bongrand le résultat des perquisitions. L'ami du vieillard s'écriait quelquefois au moment où les gens d'affaires et les héritiers sortaient. « Je n'y comprends rien !» Comme pour beaucoup de gens superficiels, 200 000 francs constituaient à chaque héritier une belle fortune de province. Personne ne s'avisa de rechercher comment le docteur avait pu mener son train de maison avec 15 000 francs seulement, puisqu'il laissait intacts les intérêts de la créance portenduère. Bongrand, Savinien et le curé se posaient seuls cette question dans l'intérêt d'Ursule, et firent, en l'exprimant, plus d'une fois pâlir le maître de poste. « Ils ont pourtant bien tout fouillé, eux pour trouver de l'argent, moi pour trouver un testament qui devait être en faveur de monsieur Portenduère, » dit le juge de paix le jour où l'inventaire fut clos. On a éparpillé les cendres, soulevé les marbres, tâté les pantoufles, percé les bois de lit, vidé les matelas, piqué les couvertures, les couvre-pieds, retourné son édredon, visité les papiers pièce à pièce, les tiroirs, bouleversé le sol de la cave, et je l'ai poussé à ces dévastations. Que pensez-vous ? Disait le curé. Le testament a été supprimé par un héritier. Et les valeurs ? Courez donc après. Devinez donc quelque chose à la conduite de gens aussi sournois, aussi rusés, aussi avares que les Massins, que les Crémières. Voyez donc clair dans une fortune comme celle de Minoret, qui touche 200 000 francs de la succession, qui va, dit-on, vendre son brevet, sa maison et ses intérêts dans les messageries. 350 000 francs. Quelle somme! Sans compter les économies de ses 30 et quelques 1000 livres de rente en fonds de terre. Pauvre docteur!
Le testament aura peut-être été caché dans la bibliothèque, dit Savinien.
Aussi ne détournais-je pas la petite de l'acheter. Sans cela, ne serait-ce pas une folie que de lui laisser mettre son seul argent comptant à des livres qu'elle n'ouvrira jamais?
La ville entière croyait la filleule du docteur nantie des capitaux introuvables.
Mais quand on sut positivement que ses 1 400 francs de rente et ses reprises constituaient toute sa fortune, la maison du docteur et son mobilier excitèrent alors une curiosité générale. Les uns pensèrent qu'il se trouverait des sommes en billets de banque cachées dans les meubles. Les autres, que le vieillard en avait fourré dans ses livres. Aussi, la vente offrit-elle le spectacle des étranges précautions prises par les héritiers. Dionys, faisant les fonctions d'huissier-priseur, déclarait à chaque objet crié que les héritiers n'entendaient vendre que le meuble et non ce qu'il pourrait contenir de valeur. Puis, avant de le livrer, tous ils le soumettaient à des investigations crochues, le faisaient sonner et sonder. Enfin, il le suivait des mêmes regards qu'un père jette à son fils unique en le voyant partir pour les Indes. « Ah, mademoiselle !» dit la Bougival consternée en revenant de la première vacation. « Je n'irai plus. Et Monsieur Bongrand a raison. Vous ne pourriez pas soutenir un pareil spectacle. Tout est par place. On va et on vient partout comme dans la rue. Les plus beaux meubles servent à tout. Ils montent dessus. » Et c'est un fouillis où une poule ne retrouverait pas ses poussins. On se croirait à un incendie. Les affaires sont dans la cour, les armoires sont ouvertes, rien dedans. Oh, le pauvre cher homme, il a bien fait de mourir, sa vente l'aurait tué.
Bongrand, qui rachetait pour Ursule les meubles affectionnés par le défunt et de nature à parer la petite maison, ne parut point à la vente de la bibliothèque. Plus fin que les héritiers, dont l'avidité pouvait lui faire payer les livres trop chers, il avait donné commission à un fripier bouquiniste de Melun, venu exprès à Nemours et qui déjà s'était fait adjuger plusieurs lots. Par suite de la défiance des héritiers, la bibliothèque se vendit ouvrage par ouvrage. 3 000 volumes furent examinés, fouillés un à un, tenus par les deux côtés de la couverture relevés et agités pour en faire sortir des papiers qui pouvaient y être cachés. Enfin, leurs couvertures furent interrogées et les gardes examinées. Le total des adjudications s'éleva, pour Ursule, à 6 500 francs environ, la moitié de ses répétitions contre la succession. Le corps de la bibliothèque ne fut livré qu'après avoir été soigneusement examiné par un ébéniste célèbre pour les secrets, Mandé de Paris. Lorsque le juge de paix donna l'ordre de transporter le corps de bibliothèque et les livres chez mademoiselle Mirouette, il y eut chez les héritiers des craintes vagues, qui plus tard furent dissipées quand on la vit tout aussi pauvre qu'auparavant. Minoret acheta la maison de son oncle, que ses co-héritiers poussèrent jusqu'à 50 000 francs, en imaginant que le maître de poste espérait trouver un trésor dans les murs. Aussi, le cahier des charges contenait-il des réserves à ce sujet.